Voilà, alors, on est en période de vacances. Peut-être certains d'entre vous rentrez de vacances et peut-être vous vous sentez bien. Nous, ça a été le cas. On est parti quelques jours en vacances, même si on est dans une belle région, on était content de partir et on se sent bien au retour de vacances. Et on se dit, pourvu que ça dure, pourvu que je me sente bien comme ça toute l'année, on se dit, pourvu que ça dure. Et aussi, le temps. Je trouve qu'il fait moins chaud, en tout cas dans notre région, que l'année dernière, où on a vécu une canicule. Et on se dit aussi, pourvu que ça dure, qu'on puisse vraiment avoir qu'on puisse respirer. Aussi, on se rappelle des émeutes qu'il y a eu récemment, voilà, avec la mort de ce jeune. Et on vit une période d'accalmie en ce moment. Et on se dit, pourvu que ce calme, pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu des manifestations aux États-Unis. Des manifestations violentes même. Après des violences policières qui avaient entraîné la mort d'un Afro-Américain. Et ça avait entraîné de grandes manifestations. Et on pouvait lire, je me rappelle, je l'avais vu à la télé, on pouvait lire une pancarte en anglais, et traduction en français, qui disait « Pas de justice, pas de paix ». C'était brandi par une foule en colère. Alors bien sûr, ça ne justifie pas la violence et la vengeance. Mais ce cri montre que tout homme, même le non-croyant, eh bien, il aspire à la justice. Nous aspirons tous à la justice parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et même les enfants, des fois, vous les aurez entendus dire, c'est pas juste quand il y a une préférence envers un des deux enfants. Alors, si ce slogan « pas de justice, pas de paix » crie tellement à nos cœurs, eh bien c'est parce que c'est une vérité biblique. Et c'est une vérité biblique qu'on trouve dans le psaume 85, que je vous invite à prendre, que je vais lire, le psaume 85. Et avant cela, je vais prier. Oui Seigneur, merci parce que tu nous as laissé ta parole Seigneur, ta parole qui nous suffit Seigneur, qui doit nous suffire. Que nous y trouvions toute notre paix, toute notre joie, que nous nous en nourrissions chaque jour. Merci, mon Dieu, pour ce trésor et pour, Seigneur, ta parole qui nous annonce ton salut, que tu avais déjà annoncé, Seigneur, dès les origines. Ouvre-nous le cœur et l'intelligence pour recevoir toutes les merveilles de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Psaume 85. Au chef des chantres des fils de Corée, psaume. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Pause. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie? Afin que ton peuple se réjouisse en toi. Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la vérité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre. Et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. J'ai intitulé mon message « Plus si affinité ». Plus si affinité. C'est ce que Dieu veut avec nous, son Église. Dieu veut plus qu'une simple relation de fréquentation avec lui. Mais il veut que nous ayons plus si affinité. Il veut une relation féconde avec lui. Comment avoir une relation féconde avec Dieu? Féconde, qui porte du fruit. Eh bien, j'ai bien sûr j'ai pris l'image du mariage qui est présente dans ce psaume, on va le voir, l'image du mariage. Et quand on considère un mariage, comment ça commence? Comment ça se termine aussi et comment ça se poursuit? Eh bien, j'ai pris les trois étapes principales. les trois étapes principales de ce qu'on voit dans un mariage. La première étape, c'est le temps que nous allons voir, c'est le temps des fréquentations, c'est-à-dire les fiançailles. Deuxièmement, après les fréquentations, bien, il y a la demande en mariage, mon deuxième point qu'on verra. Et en troisième point, nous verrons eh bien, le mariage en lui-même et quels sont les fruits de cette union. Cela, bien sûr, en rapport à Dieu avec son peuple. Donc, premièrement, mon premier point, voyons le temps des fréquentations entre Dieu et son peuple. Alors déjà, ce psaume, il est des fils de Corée, nous est-il dit au verset 1. Corée, c'était un prêtre lévite de la famille de Kehath. Et ça s'adresse au chef des chantres. Donc, c'est un psaume qui était destiné à être chanté. Alors, il y a plusieurs hypothèses sur à quelle époque s'adresse ce psaume. En tout cas, certains commentateurs disent que ce psaume date du retour d'Israël, du retour des exilés. Les captifs qui avaient été déportés à Babylone, eh bien, ce psaume parle de leur retour en Israël. Mais on ne peut pas le dire avec certitude. Pourquoi ? Parce que les fils de Corée, qui étaient les gardiens du temple et qui étaient aussi musiciens, eh bien, ils ont vécu bien avant la déportation à Babylone. Corée, il est fait mention de Corée dans la Bible. Corée, c'est celui qui se révolta avec d'autres Israélites contre Moïse et Aaron dans le désert en contestant leur autorité. Et résultat, eh bien, il y a eu le jugement et ils furent punis de mort par un tremblement de terre et un incendie. Vous pouvez voir leur récit en Exode chapitre 16. En tout cas, ici, que ce soit l'une ou l'autre époque, ça nous concerne tous. Le fait est qu'ici, ce qu'on retient, c'est que les Israélites sont de retour d'une certaine captivité. Et là, on voit un retour à Dieu. Après une certaine captivité, on voit un retour à Dieu. Et on pense bien sûr à la captivité du péché, dont Dieu a voulu les libérer et nous libérer. Mais, dans ce psaume, il y a un mais. Les Hébreux ne sont pas satisfaits. Le psalmiste qui a écrit ce psaume n'est pas satisfait. On peut y voir aussi une déception. Le psalmiste exprime en fait une déception du peuple. Ils sont déçus de voir que leurs conditions de vie dans la terre promise sont loin d'être celles que Dieu avait promises lorsque Dieu avait fait alliance avec son peuple. Et donc il y a une certaine déception, ils ne sont pas satisfaits. Ce psaume fait référence à la première alliance de Dieu avec son peuple. On peut comparer cette première alliance à un temps de fréquentation. À un temps de fréquentation entre Dieu et son peuple, les Israélites dont il a voulu faire son peuple, un temps de fréquentation, un temps de fiançailles entre Dieu et son peuple à qui il a voulu se faire connaître en le libérant d'Égypte, de l'esclavage. Et ce temps de fréquentation, Dieu, eh bien, montre que Dieu veut en faire son peuple. Alors, pour nous, le temps de fréquentation, pour ceux qui sont mariés, je pense qu'on est tous. Eh bien, il y a eu un temps de fiançailles, je crois, dans la plupart des cas. Et est-ce que vous vous rappelez du temps de vos fiançailles, du temps de fréquentation? Quand on commence à se connaître, on voit tout merveilleusement, n'est-ce pas? On voit que les qualités chez l'autre. Et pour soi, on prend bien soin à ne montrer que ses qualités, et on prend bien soin de cacher ses défauts. On veut se montrer à l'autre sous son meilleur jour, mais dans la réalité, le constat, c'est que tôt ou tard, les défauts, les failles finissent par apparaître chez l'autre, même pendant le temps des fréquentations. Et puis, le doute s'installe. Est-ce que l'autre va continuer de m'aimer? J'ai montré une faille là chez moi. Est-ce qu'il va continuer de m'aimer? Est-ce qu'il va aller jusqu'au mariage? Malgré mes défauts, est-ce qu'il va continuer de m'aimer? Dans le cas de Dieu avec son peuple, fréquentation, Dieu n'a pas de défauts, il est parfait. Alors les défauts, ils viennent forcément du côté du peuple. Pendant le temps de fréquentation, il peut y avoir des disputes aussi, déjà pendant le temps de fiançailles, de fréquentation. Disputes qui, on en est qu'au début de la relation, qui engendrent tristesse et parfois même séparation. Séparation momentanée ou séparation définitive. Les deux fiancés jugent qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Mais il peut aussi y avoir pardon quand l'amour est le plus fort. Ce temps de fréquentation pendant les fiançailles, il est quand même fragile. Il est quand même fragile même s'il y a eu pardon. Et on se dit, pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Alors ce psaume, eh bien, c'est une prière. C'est une prière, ce psaume. Comme toute prière, on peut se l'approprier. Quand on ne sait pas comment prier, justement. Et c'est une prière du psalmiste pour le peuple. Le psalmiste prie pour le peuple d'Israël. Et c'est une prière qui commence par une louange, une reconnaissance à Dieu, et ce pour trois raisons. Le psalmiste est reconnaissant à Dieu, verset 1, d'avoir été favorable. Il a fait revenir son peuple d'exil, de déportation. Le psalmiste est reconnaissant parce que Dieu a été favorable. Première raison. Deuxième raison pour laquelle il est reconnaissant, c'est que Dieu a pardonné à son peuple ses fautes. Et il a pardonné de façon totale. Le verset 2 nous dit qu'il a couvert tous ses péchés, pas la moitié. Et enfin, troisième raison pour laquelle le psalmiste est reconnaissant, c'est que Dieu n'est plus en colère. Il a retiré toute sa fureur, verset 3. Il est revenu de l'ardeur de sa colère. Autant de raisons pour le psalmiste de se réjouir d'être en colère. Et on se dit, mais c'est très bien, ce psaume, il aurait pu s'arrêter là, au verset 3. Mais non, ça ne suffit pas. Le psalmiste n'est pas satisfait. Il est même inquiet. Il est même inquiet. Et on va voir pourquoi. Cette inquiétude, c'est cette inquiétude qu'il a au fond de lui-même qui va le conduire à cette prière, à supplier Dieu. Pourquoi ? Eh bien, le psalmiste, il désirait plus qu'une simple fréquentation avec Dieu. Il désirait plus que le pardon des péchés. Et regardons ce que le psalmiste demandait avec supplication à Dieu. C'est étonnant. Le psalmiste demande à Dieu, « Rétablis-nous », verset 4, « Ramène-nous ». C'est le même mot qu'au verset 1. Alors que Dieu a pourtant ramené son peuple de captivité. Vous voyez ? Dieu a ramené son peuple de captivité et le psalmiste demande, « Rétablis-nous, ramène-nous ». Au verset 4 et 5, il lui demande, « Cesse ton indignation contre nous, t'irriteras-tu contre nous à jamais ? Prolongeras-tu ta colère éternellement ?» Alors qu'il vient tout juste de dire à Dieu, de dire que Dieu a retiré toute sa colère. Dieu n'est plus en colère et pourtant, il lui dit, « Cesse ton indignation contre nous, t'irriteras-tu contre nous à jamais ?» En fait, le psalmiste, il s'inquiète pour trois raisons. Premièrement, pourquoi le psalmiste s'inquiète-t-il ? Eh bien, même si ça va bien, tout va bien, il s'inquiète que le peuple ne retombe dans la folie, verset 8, comme ça a été si souvent le cas dans l'histoire d'Israël, avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Cette folie, eh bien, c'est rien d'autre, cette folie de l'homme n'est rien d'autre que le péché qui nous a tous atteints, la prétention de vouloir se passer de Dieu. Et c'est le péché, la désobéissance à Dieu qui nous sépare de Dieu, qui sépare l'homme de Dieu. Et aussi, c'est le péché, la désobéissance à Dieu qui a séparé la justice et la paix. La justice et la paix sont séparées à cause du péché. Et la bonté et la vérité sont séparées aussi avec les conséquences qu'on connaît. Examinons ça de plus près. Justice et paix sont séparées. Vouloir la justice à tout prix, systématiquement, dans un monde déchu. À quoi ça va conduire ? À quoi ça conduirait ? À la vengeance. À un monde de vengeance, vengeance sans pitié, où la paix et la bonté seraient exclues. Ça, c'est s'il y a la justice toute seule. S'il y a la paix toute seule, vouloir, d'un autre côté, vouloir la paix à tout prix, conduirait à exclure la justice et la vérité. Ça conduirait à une paix factice, une paix faite de compromis, une paix illusoire et fragile. Vouloir que la paix sans la justice. Et effectivement, témoigner toujours de la bienveillance à un coupable, toujours fermer les yeux sur ses fautes, et n'est-ce pas voiler la vérité ? N'est-ce pas au sacrifice de la vérité ? Alors oui, justice et paix ont été séparés à cause du péché. On peut dire qu'il y a eu une déchirure entre la justice et la paix, entre la bonté et la vérité. C'est une déchirure. Et cette déchirure, nous la vivons en nous-mêmes, cette déchirure. En nous-mêmes. Parce que nous vivons dans un monde déchu, un monde de péché. Et que nous aspirons à plus de justice. Même le non-chrétien aspire à plus de justice. Et cette déchirure, nous la vivons en nous-mêmes parce que nous aussi, nous sommes pécheurs. Et nous vivons cette déchirure entre paix et justice. Et c'est cette déchirure qui rend la paix entre l'homme et Dieu si fragile. Et c'est cette déchirure qui rend le psalmiste si inquiet et qui l'a poussé à écrire ce psaume inspiré par l'Esprit de Dieu. Donc première raison pour laquelle le psalmiste s'inquiète, c'est qu'il redoute, il a peur que le peuple ne retombe dans sa folie. Deuxième raison qui explique l'inquiétude du psalmiste, c'est que le peuple vient tout juste de bénéficier de la grâce de Dieu. Ce qui signifie que retomber dans le péché serait d'autant plus grave que Dieu vient de lui pardonner, ça serait une folie. Et les fils de Corée avaient bien compris que si Dieu avait sauvé son peuple et suspendu sa colère, eh bien, le peuple n'avait aucun mérite, c'est uniquement par pure grâce, parce que Dieu est bon, sans aucun mérite de leur part. C'est ce qui a d'ailleurs suscité leur reconnaissance. Donc deuxième raison qui a suscité l'inquiétude du psalmiste, c'est qu'il redoutait que le peuple retombe dans sa méprise finalement la grâce de Dieu. Troisième raison de son inquiétude, c'est qu'il se rend compte, le psalmiste, de l'incapacité du peuple à arriver tout seul à plaire à Dieu. Le peuple en est incapable. Alors le psalmiste, il supplie Dieu. Il va supplier Dieu pour que ça dure. Alors oui, un temps de fréquentation qui est bien fragile. Et la pensée du psalmiste est pourvu que ça dure, qu'ils aient compris la leçon, pour que Dieu ne se remette pas en colère. Il a bien retiré sa colère, mais jusqu'à quand cela va-t-il durer ? Alors comment réconcilier justice et paix ? Comment réconcilier bonté et vérité ? Eh bien, il faudrait un engagement durable. Un engagement durable, et ça nous fait penser à quoi ? Un engagement durable entre deux personnes qui s'aiment, ça nous fait penser au mariage. Le mariage qui a tellement été galvaudé à notre époque. Vous savez, j'ai même entendu récemment quelqu'un effectivement qui affirmait que le concubinage, finalement, ça fait depuis tellement longtemps qu'ils vivent ensemble, maintenant on peut les considérer comme mariés, alors qu'ils ne sont pas mariés. Et même parfois, j'ai entendu ça, de la part de quelqu'un qui est renommé dans le milieu chrétien. Le concubinage, finalement, quelle différence avec le mariage ? Mais c'est pas pareil. Parce que le mariage demande un engagement. Le mariage va demander un engagement. Et l'engagement, c'est une preuve d'amour. Mariage qu'il ne faut pas confondre avec concubinage. Le mariage demande aussi d'attendre avant d'avoir des rapports sexuels avec l'être aimé. C'est aussi une preuve d'amour, d'attendre. Mais quand il n'y a pas eu mariage, il n'y a pas eu engagement. Et c'est très fragile, cette relation. Mais pour se marier, il faut que les deux soient d'accord. Alors, est-ce que le psalmiste, il le veut, ce mariage entre Dieu et son peuple ? Oui, il le veut ardemment. Alors, il va faire une prière pour le peuple, une prière suppliante à Dieu pour que Dieu continue de faire grâce dans le temps, pourvu que ça dure. Que Dieu renouvelle son œuvre de grâce, de pardon, que ça dure dans le temps. Il le supplie de rendre permanente sa grâce, parce qu'il était convaincu que ce que Dieu a fait, sa délivrance qu'il a opérée, la grâce, son pardon qu'il a offert, il peut encore le refaire. Alors voyons maintenant mon deuxième point, la demande en mariage. Le psalmiste ne se satisfait pas d'une relation que je qualifierais de roue de secours avec Dieu, d'une simple fréquentation. Où on fait appel à l'autre, en l'occurrence ici à Dieu, quand on en a besoin, ou quand tout va mal, c'est souvent là, n'est-ce pas ? Non, il veut plus. Il veut plus que le pardon des péchés. Il n'est pas satisfait. Il veut une relation sérieuse, durable, stable et joyeuse avec Dieu. Et c'est dans le mariage qu'on trouve une relation joyeuse avec... Il y a la joie dans le mariage entre deux époux. Eh bien, le psalmiste, il veut une relation comparable à une relation de mariage entre Dieu avec son peuple, une relation joyeuse. Le psalmiste vise un plein épanouissement de son peuple en Dieu. Il désire que Dieu leur rende la vie pour que le peuple se réjouisse en lui, verset 6, qu'il n'aille pas voir ailleurs, mais qu'il trouve toute sa joie en Dieu. Alors, il demande, verset 7, il demande à Dieu, « Fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. » Nous y voilà, nous y voilà. C'est le salut dont le peuple a besoin, le salut. Et le mot est répété 3 fois. Là, au verset 7 que je viens de citer, le mot salut, il est répété aussi au verset 4. Dieu de notre salut. Et au verset 9. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Le salut. Voilà la clé pour rendre cette relation pérenne, durable. Le salut qui semble si éloigné pour certains, eh bien, il est près de tous ceux qui craignent Dieu, nous dit le psaume. Quelles que soient tes difficultés, tes détresses, si tu te sens loin de Dieu, pas à cause de ton péché, mais si tu as un sentiment d'éloignement, Dieu est là, il est tout proche. Et le psalmiste, qu'est-ce qu'il veut ? Justement, il veut cette proximité avec Dieu. Il veut une relation de proximité avec Dieu. En fait, il désire Dieu lui-même. Plus que ses dons, il désire la présence de Dieu. Il veut s'engager avec lui pour que Dieu habite avec son peuple. Pour lui, clairement, le salut est synonyme de mariage. Le salut est synonyme de mariage. Et on peut comparer cette prière de supplication du psalmiste à une demande en mariage. Une demande en mariage de Dieu avec son peuple. C'est pas rien une demande en mariage. Alors le psalmiste, il le désire ardemment. Mais Dieu, quelle sera la réponse de Dieu ? Eh bien, devant une telle demande, le psalmiste, il a l'assurance que Dieu va lui répondre. Il va lui répondre comment ? D'une manière parlée, par sa parole. Il sait que Dieu va lui répondre, c'est pourquoi il prend l'engagement d'écouter Dieu. Verset 8, qu'on a chanté d'ailleurs tout à l'heure, une partie du moins. « J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. » Effectivement, Dieu a parlé de paix à son peuple. Mais à qui ? À ceux qui veulent faire partie de son peuple, à ceux qui veulent cette paix, à ceux qui le craignent, qui se repentent de leurs péchés et qui veulent lui obéir. Alors, j'écouterai ce que dit Dieu. Est-ce que nous avons pris l'habitude d'avoir des moments de silence avec Dieu ? Est-ce que nous avons quotidiennement des moments où nous éteignons nos portables et où nous prenons ce temps ? Où nous prenons ce temps sans être dérangés, un temps volontaire avec Dieu pour écouter ce que Dieu a à nous dire parce qu'il veut parler. Si nous recherchons la paix, il veut nous parler. Moments de silence qui sont tellement rares à notre époque. Et récemment, le confinement nous a obligés à nous isoler aussi. Et ce temps-là, nous pouvions aussi l'utiliser pour être plus proches de Dieu. Avez-vous pris ce temps d'écouter Dieu, cette habitude ? Eh bien, si oui, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Un mariage demande un engagement durable et réciproque. Dieu, lui, de son côté, il s'était déjà engagé avec son peuple à lui être fidèle. Il s'était déjà engagé lors de la première alliance qu'il avait faite en partant d'Abraham. Dieu avait déjà montré de son côté son amour et sa fidélité dans cette première alliance en libérant Israël de l'esclavage et en lui pardonnant ses fautes. Eh bien ici, c'est encore Dieu qui a pris l'initiative de sceller cette union avec son peuple, dans une nouvelle alliance, celle-ci. Cette fois, il s'agit d'une nouvelle alliance. Mais c'est Dieu qui a pris l'initiative. Encore une fois, c'est lui qui a pris l'initiative. Ce qui devrait susciter notre adoration. Alors, cette nouvelle alliance, eh bien, c'est la réponse de Dieu à la prière du psalmiste. Et cette réponse, eh bien, à la demande du psalmiste, la réponse de Dieu à la demande du psalmiste, cette demande en mariage, ça va être un grand oui. Un grand oui lorsqu'il enverra Jésus-Christ, son Fils, sur terre, s'incarner sur cette terre. En la personne de Jésus, le ciel et la terre se sont rencontrés. La bonté et la fidélité se sont rencontrés. Verset 10, la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Lorsque Jésus est né, on en était encore qu'au stade de la rencontre. Il fallait encore que les deux s'embrassent. Il fallait que la justice embrasse la paix. Eh bien, c'est en Jésus-Christ que la paix et la justice vont s'embrasser et se marier. Mais ça sera au prix d'une douloureuse déchirure, ce mariage. On se rappelle, c'est le péché qui a séparé la justice de la paix, occasionnant ainsi une triple déchirure. La déchirure d'être séparé de Dieu, c'est le péché qui nous a séparés de Dieu. La déchirure dans nos rapports conflictuels les uns avec les autres dans notre monde, entre les hommes. Et enfin, la déchirure que nous vivons en nous-mêmes. Eh bien, en envoyant Jésus, Dieu a voulu réparer cette déchirure. Il a voulu réparer cette déchirure. Mais pour la réparer définitivement, cette déchirure, eh bien, Dieu a accepté de la vivre en lui-même, entre le Père et le Fils. Lorsque le Fils a été séparé de son Père, quand il portait tous nos péchés à la croix. Ça a duré 3 jours. Et puis Dieu est ressuscité. Jésus, par sa mort à la croix et par sa résurrection, il a ainsi accompli la justice de Dieu en prenant sur lui la punition de nos fautes, tout en donnant la paix à tous ceux qui croiraient en lui. Justice et paix sont enfin réconciliées. La paix, elle est possible par ce qu'a fait Jésus-Christ. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 1, nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est la justice que Jésus a accomplie à la croix qui nous donne la paix. Alors oui, le mariage entre l'homme et Dieu devient alors possible. La séparation est enlevée grâce à la réparation de Jésus-Christ. Alors maintenant que le mariage est possible, eh bien voyons justement en quoi consiste le mariage entre Dieu et son peuple. Et voyons, dans un mariage c'est une union, voyons les fruits de cette union. Mon troisième point, le mariage et les fruits de cette union. En Jésus-Christ, la paix et l'harmonie entre les hommes devient possible. Il est possible de vivre en paix les uns avec les autres. Mais, au préalable, il faut d'abord faire la paix avec Dieu. Alors, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez cette paix? Peut-être êtes-vous de ceux qui vous sentez toujours coupable. Vous avez beau demander pardon à Dieu, mais le sentiment de culpabilité est toujours là. Vous n'avez pas la paix. Vous ne croyez pas suffisamment à son pardon. Vous ne voyez que sa justice. Pas la paix. Pas son amour. Mais en Jésus-Christ, à la croix, justice et paix se sont embrassées et ne sont plus en conflit. Dieu est apaisé envers nous tous qui croyons en son Fils et qui nous sommes repentis de nos péchés. Nous avons épousé sa bonté, sa justice, sa vérité, sa fidélité. En Jésus, la justice n'obéit plus à la loi de vengeance, puisque Jésus a pris la colère de Dieu sur lui. Et en Jésus-Christ, la paix n'est plus une paix fragile, illusoire. La paix ne se fait plus en violation de la justice. C'est une paix réelle que nous avons en Jésus-Christ, qui nous offre sa grâce. Nous sommes sous la grâce de Dieu. Mais ce texte nous met en garde quand même. Il nous met en garde à ne pas prendre la grâce de Dieu à la légère. Ce que le psalmiste redoutait, que le peuple retombe dans sa folie et qu'il méprise la grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu venait tout juste de leur faire grâce en les ramenant de captivité. Et sa grâce, son pardon, sa miséricorde ne sont pas à prendre à la légère. Et c'est valable aussi pour nous chrétiens. Ne jamais demander pardon à Dieu ou à quelqu'un. Ne jamais demander pardon parce qu'on se sait justifié par Jésus-Christ. Se dire que de toute façon, Dieu pardonne toujours, est-ce que ce n'est pas prendre la grâce de Dieu à la légère ? Qu'est-ce qui manque dans une telle attitude ? Quelqu'un qui ne s'examine jamais, qui ne se remet jamais en question, qui ne demande jamais pardon, qui se dit de toute façon il est justifié, qu'est-ce qui manque ? Mais il manque l'amour. Il manque l'amour, de manifester l'amour du prochain. Il manque l'amour de Dieu. L'amour de Christ, celui que nous devons poursuivre dans l'Église et aussi dans le couple. Bien sûr, dans le couple. Comme les fils de Corée l'avaient compris, la grâce de Dieu n'est pas un dû. Dieu nous fait grâce. Ça veut dire que nous ne lui devons rien. Pardon, lui ne nous doit rien. Mais parce que Dieu nous a fait grâce, nous lui devons tout. Nous sommes devenus, si nous avons accepté la grâce de Dieu, nous sommes devenus redevables envers Dieu qui nous a fait grâce. Alors la grâce doit nous inciter à rentrer en nous-mêmes pour écouter Dieu et pour le supplier de nous aider à fuir la folie du péché comme la peste. Et c'est ainsi que nous, si vous aspirez à la joie, à la paix, le mariage, c'est une image, n'est-ce pas, de cette joie. On peut vivre une joie et une paix dans le mariage. Ce n'est qu'une pâle image de cette joie et cette paix que le Seigneur nous offre. Eh bien, si vous voulez vivre cette joie et cette paix, c'est effectivement en fuyant le péché comme la peste. L'Église, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Jésus qui a dit lui-même dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 29, « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. » Se disant lui-même l'époux, et nous sommes l'épouse, l'Église. Lorsque quelqu'un devient chrétien, il rentre dans l'Église, l'épouse de Christ, mais ce n'est qu'un commencement. De même que le mariage, ce n'est pas une fin, ce n'est pas l'aboutissement, ce n'est que le commencement de la vie à deux, le mariage. Eh bien, avec le Seigneur, quand quelqu'un devient chrétien, ce n'est que le commencement de la vie chrétienne. Certains diront peut-être, alors c'est vrai, en tant que chrétien, nous sommes pardonnés, oui. Mais est-ce que nous désirons plus que le pardon de nos péchés? Certains peut-être diront, mais Dieu n'est plus en colère contre moi, alors que désirer de plus? Imaginez deux époux qui viennent de se marier. Et puis l'un dit à l'autre, chérie, tu sais, j'ai mes habitudes, je désire vivre ma vie la semaine, et si tu veux, on se voit le week-end. Voilà, ça doit bien suffire. Mais tu sais que je t'aime. Est-ce que c'est ça, la relation avec Dieu? Non, Dieu veut plus. Il veut plus si affinité. Alors oui, on peut dire à Dieu, tu m'as sauvé, Seigneur. Mais on peut encore lui dire, Seigneur, sauve-moi. On peut dire, tout est accompli sur la croix. Amen, le salut est acquis. Mais on peut dire à Dieu, tout reste à faire dans mon cœur. Alors la question à se poser, c'est, désirez-vous Dieu lui-même, plus que ses dons? Désirez-vous Dieu lui-même? Désirons-nous, comme le psalmiste, sa présence permanente, H24, pour l'aimer, pour lui plaire, pour nous réjouir en lui, comme deux époux se réjouissent l'un avec l'autre? Dieu veut nous donner cette joie, et une joie bien plus grande que la joie entre époux. Ou bien est-ce qu'on se contente juste de le fréquenter une fois par semaine pour avoir nos péchés pardonnés et puis on reprend notre vie d'avant? Dieu veut nous donner plus si affinité. Et en effet, dans ce psaume, l'histoire ne s'arrête pas à « ils se marièrent ». Mais ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Regardez la progression dans les versets 10 et 11. La bonté et la progression des verbes. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent, la fidélité germe de la terre. Regardez la progression. Il y a d'abord la rencontre. Puis, le couple s'embrasse, la justice et la paix s'embrassent, et ensuite il y a fécondation. Et c'est le cours normal de la vie qui régit la terre tout entière. Et regardez, la comparaison, effectivement, elle est faite avec la terre et avec le fruit de la terre. La prière du verset 7, « Accorde-nous ton salut », c'est ce que demandait le psalmiste, le salut. Eh bien, elle est exaucée au verset 12, que je lis, le verset 12, « L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. » Accorde-nous ton salut. Le verbe ici veut dire donner. Donne-nous ton salut. Eh bien, c'est le même verbe qu'au verset 12, « Et notre terre donnera ses fruits. » Dieu donne, la terre le lui rend bien, nous le rend bien. Accorder, donner, c'est le même verbe. L'Éternel, dans le cycle de la vie sur terre, commence par donner à la terre eh bien, les biens en abondance. C'est-à-dire qu'il donne la lumière, il donne la chaleur, il donne les pluies, il donne les saisons fertiles. Et la terre, en retour, en réponse à tous ses bienfaits, elle donne libéralement ses fruits. On a cueilli des figues hier sur notre figuier. Elles sont encore plus grosses que l'année dernière. On s'est régalé. Et la terre, en réponse aux bienfaits de Dieu, donne libéralement son fruit, ses légumes. Eh bien, pour nous, c'est pareil. C'est le même principe. Pour nous aussi, Église, notre union avec le Seigneur va ou doit nous faire produire du fruit sur cette terre, qui sont des bonnes œuvres, des fruits de bonté, des fruits de générosité, de justice, de paix, de fidélité, autant de qualités qui sont présentes chez Dieu lui-même. Et si vous recherchez ces qualités, eh bien Dieu de justice, de fidélité, de paix, de vérité sera avec vous. Il viendra à votre rencontre et il vous fera produire du fruit. Qu'il en soit glorifié. Et c'est le fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Et ça ne s'arrête pas là. Dieu veut nous donner encore plus si affinité pendant notre séjour ici-bas sur cette terre. Parce que tant que nous sommes sur cette terre, eh bien nous pouvons désirer encore plus grâce à notre affinité avec le Seigneur, notre proximité avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que son salut ne sera parfaitement accompli qu'à son retour, lorsqu'il nous prendra avec lui, lorsqu'il habitera visiblement avec son peuple et que le paradis sera rétabli. Alors, en attendant que son salut soit pleinement visible, où est-ce qu'il faut marcher? En attendant, nous sommes sur une terre déchue et on se demande, mais où poser nos pas? Eh bien, nous avons un guide qui est sûr. Il nous suffit de placer nos pas dans les pas du Seigneur, du Sauveur, qui a marché sur cette terre, qui a laissé ses traces sur cette terre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'astronaute James Irwin. Il est un des premiers à avoir posé le pied sur la Lune. Et il était chrétien. Il a dit ceci. Il a dit que le plus important, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais c'est que Dieu ait marché sur la Terre en Jésus-Christ. Amen. Il a laissé ses pas sur cette Terre. Il a laissé son empreinte. Donc nous pouvons le suivre. Nous connaissons ses pas. Pourquoi? Parce qu'il a imprimé ses pas sur le chemin. Regardez comment ce psaume se termine au verset 13. La justice marchera devant lui, c'est-à-dire devant l'Éternel, et imprimera ses pas sur le chemin. La justice, Jésus est notre justice. Et il a imprimé ses pas, ici-bas, sur terre. Donc nous savons où marcher. Nous savons le chemin, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Nous pouvons suivre les traces qu'il nous a laissées. Amen. Je vais prier. Oui, Seigneur, comment ne pas te dire merci, t'adorer. Tu es venu dans ce monde, Seigneur. Tu as partagé la vie des hommes, Seigneur. Et tu as vécu humblement, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous. Tu n'as jamais commis le moindre péché. Tu as porté nos péchés. Merci Seigneur parce que c'est l'empreinte que tu as laissée sur cette terre, une empreinte indélébile qu'on ne peut pas effacer. Alors Seigneur, que nous suivions effectivement ton empreinte, les pas que tu as laissés sur cette terre, en sachant Père que tu nous réconcilies, tu nous as réconciliés avec toi, par ton Fils. Seigneur, donne-nous de marcher sur cette terre en suivant tes pas, en suivant tes traces. Seigneur, donne-nous de te voir. Et d'avoir cette proximité avec toi, Seigneur. 24 heures sur 24, Seigneur. C'est ce que tu veux, Seigneur. De même qu'un couple est fait pour vivre ensemble, Seigneur. Eh bien, toi, tu veux être en permanence avec nous. Alors que nous vivions cette relation, Seigneur, avec toi. Cette relation d'amour. Et que nous en soyons conscients, que nous voyons, Seigneur. Que nous sachions discerner tes pas, Seigneur, sur la terre. Et que nous le suivions. Merci encore de cette relation que tu nous offres. Avec toi, tu as tout accompli pour nous. C'est toi qui as fait le premier pas. Et Seigneur, qu'en retour, Seigneur, eh bien, nous portions du fruit pour toi. Nous t'en prions. Merci de bénir ton Église, ceux qui sont présents ici, ceux qui sont au loin, ceux qui sont peut-être en vacances. Merci de les garder, Seigneur, de nous garder chacun. Et merci de aussi pendant ce temps de vacances, Père, de te voir, de te considérer dans notre vie. De tous les jours. Oui, que tu sois vraiment notre joie, Seigneur, qu'on n'aille pas chercher ailleurs ce que toi seul tu peux nous donner pleinement. Tu peux nous donner pleinement, Seigneur, la paix, la joie, même dans ce monde qui va si mal et qui a tellement besoin de toi. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.